J'ai le privilège ce matin de vous partager une réflexion sur un texte des évangiles et sur évidemment la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est un privilège parce que eh bien, ces événements, la mort et la résurrection de Jésus, sont au cœur de notre foi. S'il n'y avait pas cette mort et cette résurrection, eh bien, être ici n'aurait aucun sens. Voilà. Et c'est vrai que ce week-end, eh bien, nous pensons particulièrement à cette mort, à cette résurrection, hein, dans ce week-end de Pâques. Alors, je ne sais pas si à midi, nous allons chacun manger de l'agneau. Hein, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ce qui se préparait ce matin, ce n'était pas ça. Hein. Donc bon, j'espère quand même que je peux quand même rester, même si je... Et même si dimanche après dimanche, eh bien, nous pensons aussi à cette mort, à ces résurrections, en partageant le pain et le vin. Voilà, c'est vrai que ce week-end, on y prête particulièrement attention. Et lorsque j'ai appris eh bien, que je prêchais ce matin sur ce sujet, eh bien, je me suis dit justement, voilà, quel texte choisir. Et en parcourant dans les quatre évangiles et les textes qui décrivent la mort et la résurrection de Jésus, j'ai été particulièrement touché J'ai été particulièrement touché par le dialogue qu'il y a eu après la résurrection de Jésus entre justement Jésus et Marie-Madeleine. Et je trouve que ce texte, eh bien, en le regardant, en l'écoutant, si je puis dire, en le lisant, eh bien, est particulièrement touchant et émouvant. Et nous allons prendre donc ce récit dans l'évangile de Jean, à partir dans chapitre 20. Voilà, j'ai mis ici les versets, si vous n'avez pas de Bible. Jean 20, et nous allons lire les 18 premiers versets et nous centrer particulièrement à partir du verset 11. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus. Là, il s'agit de Jean. Et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon-Pierre arriva après lui et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait été sur la tête de Jésus. Ce linge qui n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait revenir de la mort à la vie. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier, de sorte qu'elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala, Marie-Madeleine, s'en alla annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Et c'est vrai que si on entend assez régulièrement parler de Marie-Madeleine, finalement, on sait assez peu de choses sur elle. Et on la voit, bien sûr, au moment de la résurrection. On entend aussi parler d'elle, on lit des choses sur elle au moment de la crucifixion. Mais sinon, on n'entend finalement pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose sur sa vie. Sauf quelques versets dans l'évangile de Luc, que je vais lire aussi avec vous, qui nous parlent de qui était... Marie et ce qu'elle faisait. Voilà, Luc 8, dans les trois premiers versets. Ensuite, Jésus, donc bien sûr, on est bien avant la résurrection, Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie-Madeleine, Magdala, dont cet esprit mauvais avait été chassé, Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Donc nous apprenons ici par ces quelques versets que Jésus était, et ses disciples étaient accompagnés de quelques femmes, dont ici Marie-Madeleine. Et le texte nous donne une précision importante, c'est que, on apprend que Marie-Madeleine a été délivrée de cet mauvais esprit, de cet esprit mauvais, avec parfois d'autres traductions disent sept démons. C'est vrai que ça paraît étonnant et je reconnais que j'ai du mal à me représenter ce que ça signifie, à visualiser ce que ça veut dire cet mauvais esprit, sept démons. Et c'est un sujet, c'est vrai, qui est délicat et ici abordé avec un vocabulaire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser aujourd'hui, de nos jours. Je crois que c'est une manière de nous dire que Marie-Madeleine, était fortement sous l'emprise du péché et que Jésus l'en a libérée. Et je comprends par ces versets que Marie vivait éloignée de Dieu, une vie où le péché était présent. Le péché la dominait, et ça de manière importante, car l'auteur du texte, justement, précise qu'elle avait sept mauvais esprits. Et cette description, là, dans ces quelques versets, est spectaculaire, parce que, justement, on parle de sept esprits, dont Marie-Madeleine a été libérée. Et dit autrement, la rencontre, cette première rencontre avec Jésus, a changé la vie radicalement de Marie, puisqu'elle a été libérée de ces sept mauvais esprits. Et ça a été un impact évidemment fort dans la vie de Marie. Et j'ai évoqué ici le terme de péché, et je crois que c'est important justement de définir ce qu'est le péché, et de voir ce qu'en dit la Bible. Et selon la Bible, vivre dans le péché, être dans le péché, c'est simplement vivre en étant séparé de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les textes utilisent plusieurs termes, mot pour désigner le péché, et l'un de ces mots veut dire de rater sa cible, de manquer sa cible, de dévier du but. Tout se passe comme si, au fond, le péché nous empêchait d'avoir accès à Dieu et que nos pensées étaient déviées du but qu'était Dieu. Et si je reviens à Marie, Marie, elle a là expérimenté justement ce retour à Dieu. Elle a expérimenté cette communion à Dieu, cette séparation qui était le péché, qui empêchait justement que ses pensées aillent à Dieu. Marie a connu cette libération. Et encore une fois, cette libération a certainement été le premier bouleversement dans la vie de Marie. Et servir Jésus était sans doute pour elle probablement devenu une façon d'exprimer sa reconnaissance. C'était devenu aussi pour elle un sens à sa vie. Et servir Jésus, comme pour les autres femmes, avait donné du sens à leur vie. Et je crois que nous pouvons tirer aussi un enseignement du fait que des femmes suivaient l'enseignement de Jésus. Parce que si on se replace dans le contexte de l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'écouter les enseignements des rabbins. Et ici, on voit que les femmes accompagnaient Jésus et ses disciples, bien sûr, assistaient et participaient aux enseignements. Et c'est une façon de dire que Jésus s'adressait à tout le monde et que le message de l'Évangile, le message de la nouvelle vie, était ouvert et s'adressait vraiment à tout le monde. Voilà, l'enseignement s'adresse à tout le monde. Et à partir de ce passage, entre ce passage où on découvre Marie-Madeleine, où on apprend qu'elle était libérée des sept mauvais esprits, qu'elle suivait Jésus, on n'entend plus parler d'elle jusqu'au moment de la crucifixion. Et comme nous l'avons vu, Marie accompagnait Jésus. Et celui qu'elle suivait, celui qui était capable de si belles paroles, celui qui était capable de guérison, celui qui avait donné du sens à sa vie, elle le voit crucifié sans motif valable. Et Marie et les autres femmes devaient être accablées d'avoir vu Jésus mis en croix et se sentir aussi impuissantes. Et pour elles, tout s'écroule. Tout ce qui donnait du sens à leur vie a été tué, et cela en plus de manière cruelle. Jésus a été crucifié. Et les femmes, dont Marie-Madeleine, regardent la crucifixion de loin. Et nous trouvons cette description du groupe de femmes à la crucifixion dans quelques versets dans Matthieu 27. Matthieu 27, versets 55 et 56. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, comme on l'a vu tout à l'heure. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et je trouve intéressant que les femmes, ce groupe de femmes, eh bien, regardent la crucifixion de loin. Et je trouve que c'est intéressant parce que, quelque part, ça nous ressemble de regarder la crucifixion de loin. Et parfois, nous aussi, nous la regardons de loin, la crucifixion. Alors ici, on ne sait pas vraiment pourquoi elle regarde de loin. Est-ce qu'elle n'avait pas le droit de s'approcher? Est-ce que la crucifixion était bien sûr extrêmement cruelle, donc difficile à regarder, mais peu importe. En tout cas, on apprend par ces quelques versets eh bien qu'elle regarde la crucifixion de loin. Et au moins, elles étaient là, hein, parce que beaucoup des disciples, eux, avaient disparu. Et nous aussi, nous pouvons regarder la crucifixion de loin, même si ce sont pour des raisons différentes de celles de Marie. Alors bien sûr, on ne vit pas, nous, à l'époque de Jésus. Hein, et il est plus facile de regarder la crucifixion avec indifférence, de la regarder de loin, de la regarder que de loin et que de très loin. Il est facile de considérer la crucifixion comme un événement historique, et uniquement un événement historique. Parce que l'éloignement de l'histoire, les 2000 ans, eh bien, font que, bien sûr, on regarde la crucifixion avec du recul, de loin. Et il est normal, au fond, de ne pas se sentir directement concerné par la crucifixion. Et si j'allais dans la rue et que je posais la question à des gens dans la rue en disant, voilà, pour vous, quel impact ça a pour vous, la crucifixion, en quoi ça vous concerne? Eh bien, la plupart, bien sûr, répondraient en rien. Eh bien, la folie du message de Pâques est de croire que la crucifixion a un impact dans notre vie aujourd'hui et que je ne peux pas la regarder, au fond, avec indifférence. J'ai dit tout à l'heure que le péché, eh bien, nous séparait de la présence de Dieu, nous empêchait d'être en communion avec Dieu. Eh bien, la mort de Christ, eh bien, nous permet de casser cette séparation. Et pour illustrer cette idée, je lis quelques versets dans l'Épître aux Romains, livre de la Bible. Romains 5, versets 6 à 11. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les méchants au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon. Mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Et cette notion de réconciliation est importante, et nos prières, nos chants ont évoqué cette réconciliation. Parce que notre manière de vivre, nos pensées, notre manière de vivre naturellement, j'ai envie de dire, nous pousse à vivre éloignés de Dieu, séparés de lui. Et la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Même si Marie était visiblement dans une situation difficile avec ses sept mauvais esprits, eh bien, voilà, on ne sent pas forcément habité de sept mauvais esprits, mais tous les hommes, tout le monde est pécheur. Il n'y a pas de petit ou de grand péché, puisque le péché de vivre séparé de Dieu. Et si je vis séparé de Dieu, eh bien, une des conséquences est que je me prive de son amour. Cet amour qui a poussé, justement, Dieu à laisser mourir son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et à Pâques, eh bien, nous fêtons cette réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu, comme un fils ou une fille se réconcilie avec son père. Et vous connaissez peut-être ce tableau de Rembrandt qui illustre une parabole des évangiles qui est le fils prodigue. Et je trouve que ce tableau est magnifique parce qu'il illustre justement eh bien, la réconciliation du père avec le fils, ou plutôt le fils avec son père. Et voyez avec quel amour se dégage du père qui accueille son fils. Eh bien voilà, Pâques c'est ça. Pâques c'est la réconciliation du Fils avec Dieu. Nous entrons dans l'amour du Père, nous entrons en communion avec Dieu le Père. Et quelle que soit la nature de notre péché, par la mort de Christ sur la croix, eh bien nous sommes réconciliés avec Dieu, il nous a pardonnés. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas regarder de loin la crucifixion. Et même si cet événement s'est déroulé il y a très longtemps, eh bien il a un impact sur ma vie aujourd'hui. Et je ne peux pas le regarder avec indifférence. Marie, elle, ne s'est pas contenté de regarder de loin lors de la crucifixion. Mais ensuite, elle est allée au tombeau, comme nous l'avons lu. La crucifixion a eu lieu le vendredi, le samedi c'était Shabbat, repos, et donc nous sommes dimanche matin, et ensuite elle va au tombeau. Et je trouve que, c'est une image que j'ai trouvée, c'est certainement pas le tombeau du Christ, mais simplement pour nous aider à visualiser à quoi le tombeau pouvait ressembler. Et l'engagement de Marie est remarquable, parce qu'elle est là, au moment de la crucifixion, elle va ensuite au tombeau s'occuper du corps de Jésus, à la première heure, dès qu'elle le peut. Et là, elle constate que le corps de Jésus a disparu. Comment c'est possible, ça ? C'est, pour Marie, c'est complètement incompréhensible. Alors Marie, eh bien, pleure. Son sauveur a disparu. Lui en qui elle avait mis tant d'espoir, lui qui avait donné du sens à sa vie, eh bien, non seulement il était crucifié, mais en plus, son corps a disparu. Et son attitude, l'attitude de Marie, montre qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore compris complètement le message de la résurrection. Elle n'avait pas compris qui était réellement Jésus. Et au verset 14 du texte que l'on a lu tout à l'heure, eh bien, elle se trouve face à Jésus ressuscité. Et Marie ne le reconnaît pas. Marie le prend pour le jardinier, du jardin où elle se trouve. Pourtant, Marie connaît Jésus. Elle l'a vu, elle l'a accompagné, elle l'a écouté, enfin bref, elle sait qui il est, et pourtant elle ne le reconnaît pas. Alors on peut émettre l'hypothèse que le corps de Jésus avait un peu changé. D'ailleurs, dans les autres récits où Jésus apparaît à ses disciples, eh bien, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Donc c'est une hypothèse que l'on peut formuler. Mais je crois que plus certainement, Marie ne s'attendait pas à voir Jésus. Elle ne s'attendait pas à le voir là, face à elle. Vous savez, c'est comme l'on voit quelqu'un dans un autre contexte que l'on a l'habitude de le voir. D'habitude, on le regarde, c'est lui, c'est pas lui. J'attends qu'il me dise bonjour, je vais vers lui, je sais pas. Ben là, c'était un peu pareil. Marie ne s'attendait pas à voir Jésus ressuscité. Elle ne s'attendait pas à le voir. Et elle n'a pas encore compris le sens de la résurrection, malgré les paroles de Jésus, les miracles auxquels elle a assisté. Elle ne s'est pas appropriée la promesse de la résurrection. Elle n'a pas compris que le tombeau ait pu être ouvert de l'intérieur. Et puis commence un court dialogue entre Marie et Jésus. Et c'est ce dialogue-là qui m'a fait choisir ce texte. Parce que dans ce dialogue, eh bien, il y a tout le message des évangiles. Je dirais même, en quelques mots, il y a tout le message de la Bible. Et c'est un échange émouvant, je trouve, entre Marie et Jésus. Donc, elle se trouve... Ah, j'ai bien fait de choisir le rouge. C'est à savoir, maintenant, voilà, je... Donc, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que vous voyez le moins bien, mais c'est ce que je voulais mettre en avant. Voilà, qui cherches-tu ? Et la réponse est évidente. Elle l'a dit un petit peu avant, verset 13. Elle cherche son Seigneur. Mais si Jésus pose la question, finalement, c'est que la réponse n'est pas si évidente que ça. Qui cherches-tu, Marie ? Qui cherches-tu ? Est-ce que c'est la personne qui t'a libéré des sept démons ? La personne qui a donné un sens à ta vie, qui t'a fait du bien ? Ou cherches-tu Jésus, ressuscité, fils de Dieu ? Qui cherches-tu vraiment, Marie ? Chercher Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous l'avons vu, Marie a accompagné Jésus une partie de son ministère. Elle était présente lors de la crucifixion. Elle est allée tôt au tombeau le dimanche pour prendre soin du corps de Jésus. Elle a fait preuve de fidélité. Mais qui cherche-t-elle vraiment ? Et j'ai envie forcément de nous poser la question aussi à nous. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher Jésus ? Et c'est une bonne question. Chercher Jésus, c'est essayer de le rencontrer. Essayer de comprendre eh bien, ce que sa vie a à me dire, ce que ses paroles ont à me dire dans le récit des évangiles. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire ? Qu'est-ce qu'il a à me dire dans ma vie d'aujourd'hui ? Chercher Jésus, c'est comprendre ce qui s'est passé au moment de Pâques. Comprendre le sens de sa mort et de sa résurrection. Comprendre qu'avant la mort de Jésus, eh bien, mon comportement, mes pensées m'éloignaient de Jésus. Eh bien, qu'il y avait ce mur du péché qui me séparait de l'amour du Père. Et ça, c'était irrémédiable. Je ne pouvais pas lutter, je ne pouvais pas casser moi-même. Je ne peux pas casser moi-même ce mur du péché. Chercher Jésus, c'est comprendre que sa mort sur la croix m'a offert la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, comme dans le tableau du Fils prodigue que l'on a vu précédemment. Et c'est vrai que je ne peux pas m'approcher de Dieu tout seul. Je ne peux pas le connaître seul. Il est trop parfait. J'ai besoin de cet intermédiaire qui est Jésus. Et cette question s'adresse aussi à nous ce matin. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre foi, qui cherches-tu ? Et la célébration de Pâques, eh bien, est un bon moment, justement, un peu pour faire le point, hein, et pour se demander, pour se poser cette question individuellement. Qui cherchons-nous personnellement? Alors Jésus pose cette question à Marie. Qui, j'ai un peu de retard, qui cherches-tu, Marie? Qui cherches-tu? Un homme exceptionnel, Jésus est plus que ça. Et je crois que Jésus nous pose aussi cette question ce matin. Qui cherches-tu? Un sens à ta vie, Jésus est plus que cela. Être guéri de tes blessures, Jésus est plus que cela. Des relations cordiales et sympathiques dans l'Église, Jésus est plus que cela. Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, afin de nous réconcilier avec Dieu, Créateur de l'univers. Parce que malgré cette toute-puissance qu'a Dieu, Créateur du ciel et de la terre, eh bien, il nous aime, chacun d'entre nous, d'un amour infini et personnel. Et si je vous posais encore une fois cette question ce matin, hein, qui cherchez-vous ce matin en venant à l'Église? Qui cherchez-vous dans votre vie? Alors, on a la réponse, c'est pas une réponse, mais une réaction de Jésus qui est magnifique aussi, je trouve. Là, c'est le mot que vous ne voyez pas, vous savez. Marie. Et je trouve que cette réponse, pas plus courte, eh bien, est très émouvante. Jésus appelle Marie, et il prononce juste son prénom, Marie. Et elle le reconnaît, et la relation est établie. Et je trouve que par la réaction, Jésus illustre parfaitement le lien personnel d'intimité qu'il veut avec chacun d'entre nous. Il appelle Marie par son prénom. Et d'un côté, il y a Dieu, créateur du ciel et de la terre, tout-puissant. Et de l'autre côté, il y a l'homme avec sa faiblesse, sa petitesse, sa finitude. Et entre deux, eh bien, il y a Jésus qui fait le lien. Et qu'est-ce que l'homme, au fond, à l'échelle de l'univers? Qu'est-ce que l'homme à l'échelle de Dieu? Et même si nous sommes tout petits, minuscules, à l'échelle de Dieu, eh bien, il nous aime individuellement, personnellement, d'un amour infini, aussi vaste que la puissance de Dieu. Et il souhaite nous dire personnellement qu'il nous aime. Et encore une fois, entre Dieu et Marie, eh bien, il y a Jésus, qui l'appelle par son prénom, Marie. Il la connaît personnellement, il crée le lien entre Dieu le Père et Marie, entre Dieu le Père et nous. Et encore une fois, ce n'est pas n'importe quel lien, c'est un lien d'intimité, un lien personnel, un lien d'amour. Et c'est vrai que je suis ému par cette intimité. Jésus n'utilise pas d'arguments intellectuels, il ne développe pas d'arguments logiques pour dire qu'il est Jésus le ressuscité. Non, il appelle juste Marie par son prénom. Et en entendant son prénom, Marie comprend qui il est. Essayons de nous replacer un peu dans le contexte d'ailleurs. Jésus, fils de Dieu, mort sur la croix, ressuscité. L'événement le plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité, au moment de la résurrection, eh bien, se déroule dans un jardin, sans personne, seul avec une femme. C'est incroyable. On se serait attendu, au moment de la résurrection, à plus de bruit, plus de faste, plus de communication, plus de com. Je pense que le conseiller en communication de Jésus n'aurait pas été recruté aujourd'hui. S'il avait eu un conseiller de communication, il aurait sans doute conseillé de ressusciter à un moment où il y avait plus de communication et plus de monde, des témoins. Eh bien non, Jésus ressuscite. Et la première personne qu'il nous rencontre, c'est une femme sans témoin dans un jardin. Je trouve que c'est un sacré contraste entre la puissance de Jésus, la résurrection, et l'intimité de la relation qu'il établit avec Marie. Et lorsque Jésus appelle Marie par son prénom, eh bien en un clin d'œil, elle comprend tout. Elle comprend qui est réellement Jésus. Elle comprend qu'il est ressuscité. Elle le reconnaît et l'appelle maître, et en hébreu, rabouni. Là, c'est censé... Timothée, est-ce que tu veux venir à mon aide? C'est beaucoup mieux. Voilà. Ah. Alors là, hein, comme quoi, je me sens moins seul d'un coup. Et tout est dit dans cet échange de paroles, Marie, maître. Tout le message de l'évangile est contenu dans ces deux mots. Et c'est le type de relation que Jésus souhaite avec nous. Il souhaite nous connaître personnellement en nous appelant par nos prénoms. Et il souhaite que l'on lui réponde en l'appelant maître. Et nous sommes, c'est vrai, dans la même position que Marie. Parce que la priorité de Jésus après sa résurrection, eh bien, c'est de nous rencontrer, de nous connaître personnellement, individuellement. Et ce matin, justement, où nous souvenons particulièrement de la mort et de la résurrection, eh bien, nous sommes comme Marie dans le jardin et il nous appelle. Et nous sommes tous dans des situations très différentes les uns et les autres. Certains ont répondu à l'appel il y a des dizaines d'années, certains pas encore. Tous les chemins sont différents. Moi, ça fait 28 ans, je me suis amusé à raconter combien de temps que ça faisait que j'avais dit oui à Jésus, 28 ans. Et ce matin, il nous appelle et il nous invite à lui répondre. Soit lui répondre oui, à s'engager avec lui, ou alors à ne nous souvenir de la réponse qu'on lui a faite il y a longtemps. Et comment répondre à son appel, justement? Et Marie, là, nous donne un bon exemple. Elle l'appelle maître, et c'est ce que Jésus nous demande de faire, le reconnaître comme notre maître, comme notre sauveur, notre créateur. Puis ensuite, Jésus ajoute une phrase essentielle qui montre que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous changeons de statut. Et il dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Et nous avons vu tout à l'heure que Christ, par sa mort sur la croix, avait brisé la séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. Et là, ici, eh bien, nous changeons de statut. Jésus dit à Marie que son Père, Dieu, est aussi son Père à Marie. Le Père de Jésus est aussi notre Père, devient notre Père à partir du moment où on lui a dit oui. Il est le Dieu, son Dieu, et il est notre Dieu. La mort et la résurrection de Jésus, eh bien, nous fait entrer dans sa famille. Nous sommes adoptés par lui et nous devenons frères et sœurs de Jésus. Entrer pleinement dans la famille de Dieu. Et le terme famille n'est pas une image, c'est la nature de la relation que Dieu nous propose, la relation entre un père et son enfant, avec le même lien d'amour qui existe entre un père et son enfant, tout en sachant qu'en plus que le Père céleste, Dieu le Père, est un Père parfait. Et Dieu nous adopte, comme on adopte un enfant. Et on a du mal à réaliser ce que ça signifie au fond, nous sommes adoptés par Dieu. Et nous pouvons vivre en connaissant intimement l'amour de Dieu. Et ce n'est pas tout, parce qu'en étant adopté par Dieu, eh bien, ça veut dire que le chemin de la résurrection aussi nous est ouvert. Christ a ouvert le chemin vers la vie éternelle. En vainquant la mort, en roulant la pierre du tombeau, Christ nous a ouvert la voie du salut. Christ est notre maître, comme on l'a vu, et également notre sauveur. Là aussi, quelques versets dans Romains. Romains 6, versets 4 et 5. Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que tout comme le Christ a été ramené de la mort à la vie, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Normalement, notre état de pécheur, eh bien, aurait dû nous destiner à la mort. Par la mort de Christ sur la croix, par la résurrection, eh bien, le chemin vers la vie éternelle nous est ouvert. La séparation qui existait entre Dieu et l'homme a été brisée. Et c'est le message d'espérance incroyable, eh bien, qui est contenu dans la mort et la résurrection que nous célébrons justement à Pâques. Jésus appelle Marie par son prénom, elle lui répond maître. Et je trouve qu'il y a dans ces trois interventions de Jésus, ces trois paroles, au fond les deux étapes de la conversion, de l'engagement avec Christ, de le reconnaître comme sauveur et comme maître. La première étape, Jésus nous demande, eh bien, qui cherches-tu ? Et la première étape dans la conversion est de le reconnaître justement comme sauveur et comme maître. Et quand nous cherchons Jésus d'un cœur sincère, eh bien, il nous appelle. Il nous appelle par notre prénom parce qu'il nous connaît. Et il veut une relation personnelle avec nous. Et la deuxième étape, eh bien, c'est de reconnaître Jésus comme notre sauveur et maître. Et si vous faites le choix de réaliser cette démarche, alors Dieu le Père devient votre Père. Son Dieu, le Dieu de Jésus devient votre Dieu. Et en conclusion, je voudrais dire que tout à l'heure, dans les premiers versets de l'évangile de Jean, on a vu Pierre, Jean, Marie aller au tombeau, courir au tombeau au moment de la résurrection. Chacun a eu des parcours différents. Un s'est arrêté au tombeau, l'autre est rentré, il y en a un qui est reparti. Et je trouve que ces trois réactions, en début du texte que l'on a lu tout à l'heure, eh bien, sont à l'image de nos parcours, de nos réactions face à la résurrection. Parce que nos parcours sont différents. Et si je vous posais la question, quel est votre parcours ? Quel est le parcours qui vous a mené à Jésus ? Eh bien, nous aurons autant de vie qu'il y a de parcours. Et c'est ça qui est formidable. Et que chacun a son parcours. Mais avec ce point commun, eh bien, d'avoir dit oui à Jésus et de l'avoir accepté comme sauveur et comme maître. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de parcours type. Et je veux terminer par ces quelques versets, toujours dans l'Épître aux Romains. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ. Amen.